Je suis avec le coach de la team Betclic. Coach, un mot sur le match.
Les joueurs ont validé leur pari, le bon plan du soir est passé.
Eh oui, on vous sent touché là.
Ah, c'est les émotions, oui.
Tu as gagné ton pari sur l'app Betclic et tu veux profiter dès maintenant de ta victoire? Grâce au virement instantané Betclic, reçois tes gains sur ton compte bancaire en à peine quelques minutes. Disponible seulement sur Betclic. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est pas ne pas haïr, c'est pas aimer à tel point que tu peux pas aimer quelqu'un d'autre.
S'il y a un mec en France qui est fan de foot, te dit qu'il a jamais écouté l'After ou que ça n'a pas été un auditeur de l'After, c'est un menteur.
Je vous rappelle que demain, au Grand Prix de Singapour, c'est Charles Pérez, le pilote Ferrari, qui partira en première position.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoutes en podcast et bienvenue dans Génération After. Comme tous les soirs sur RMC du lundi au jeudi de 20h à 22h. Autour de la table ce soir, Kevin Diaz. Salut Kevin.
Salut à tous.
Simon Lutin, salut Simon.
Salut Nico, bonjour tout le monde.
Et à ta droite, Walid Acharchour. Bonsoir Walid.
Salut Nico, salut à tous.
Semaine de Coupe de France. Alors au programme ce soir messieurs, OM-PSG, demain 21h10, Christophe Galtier doit-il aligner demain au Vélodrome sa meilleure équipe possible? On va vous expliquer pourquoi on pose cette question ce soir et on vous attend nombreux supporters parisiens au 32-16. 20h30 Nice, notre invité, le capitaine du gym, Dante, comment Diga a relancé Nice? On va lui poser la question, l'arrivée de Mofi, premières impressions, l'ambition en Coupe d'Europe. Il sera avec nous donc dans une demi-heure environ. 21h, Lyon-Lille demain soir, la Coupe de France sauverait-elle la saison lyonnaise ou pas du tout? Et surtout, Lyon est-il capable d'aller au bout dans cette compétition? Lille, avis de Kevin Diaz, je veux que le LOSC de Fonseca soit récompensé cette saison, tu nous diras pourquoi. Et puis à 21h30, tiens, l'avis de Walid, nous serions trop indulgents avec le Stade Rennais.
Eh oui.
Tu nous diras pourquoi. Trop indulgent.
Indulgent.
Pourquoi?
Oui, personne.
Faut qu'on leur tombe dessus parce qu'ils gagnent plus, c'est ça?
Non, Rennes en 2023, c'est pas bon et personne n'en parle.
Personne n'en parle, c'est une chose, mais est-ce qu'on est trop indulgent? Je sais pas.
Ah, je
sais pas si le terme est bien choisi.
Est-ce qu'on est trop clément?
Clément?
Oui.
Peut-être.
Oui, on en parlera tout à l'heure.
Je fais un dictionnaire des synonymes aussi.
Si oui, vous si vous voulez, on peut jouer sur les mots.
La chronique de Jimmy Brown, bien sûr, notre producteur qui prend le micro, vous le savez, oui. À 21h45, à chaque Génération After.
Indulgent, est-ce que c'est vraiment Génération After, ça?
Oui, c'est la langue française. Et Génération After, c'est la langue française.
Non, non,
après, qu'est-ce que tu insinues par là, Kevin?
Non, c'est pour savoir.
Après, je voulais utiliser un mot un peu anglais, mais Nico Jamin m'aurait tapé sur les doigts.
T'aurais dit quoi en anglais?
Je sais pas.
Tu sais même pas parler anglais alors. Qu'est-ce que tu penses? C'est marrant lui.
Tu sais même pas parler français.
Allez, avant l'after à 22h avec Nico Villas. Salut Nico.
Non, quoi?
Bien ouais. Toi.
Beaucoup trop d'indulgence hein, dans cette émission. Ouais. Bah, nous, on va faire pareil que vous. Voilà.
Même programme. Voilà. Ok, 22h donc avec Daniel.
Non, il y a Daniel Riolo bien sûr et Stéphane Guy. Alors Stéphane, il a un avis lui.
Ouais.
Et Mbappé blessé, on le sait, pour le match de demain. Bah, il a envie de dire, lui, bah, maintenant, j'ai envie de voir ce que ça vaut, moi, le duo Messi-Neymar, là, les copains sur le terrain. Donc, on a envie de voir aussi. Il y a plein de petits sons qu'on va vous ressortir. Il y a notamment le son de Galtier qui a dû répondre à une question. Est-ce que vous, le Marseillais qui est né, qui avait joué à Marseille, ce sera un match spécial pour vous? C'est marrant parce qu'on en a parlé dans la rédaction tout à l'heure. Personne n'était d'accord sur ce truc-là. Il y a encore des gens qui sont choqués de voir un Marseillais entraîneur du Paris Saint-Germain, donc supporter du PSG de l'OM. On vous attend en 32-16.
Il y a encore beaucoup de gens.
Ce que je trouve étrange, c'est qu'il y a encore des gens qui ne sont pas choqués de voir un Marseillais sur le banc de l'OM.
Qu'est-ce que vous avez pensé de sa réponse? On l'entendra également. On va parler de Vitinha également, parce qu'il commence déjà à se faire tailler alors qu'il a fait finalement un demi-match pour l'instant avec l'OM. Igor Tudor, on a parlé également. Et puis on parlera également un petit peu d'Italie et d'Allemagne. Il y a un fonds d'investissement qui veut racheter les droits commerciaux et télé de la Bundesliga. Paulo va nous expliquer ça. Johan Crochet va nous expliquer un truc qui est en train de foutre le feu à l'Italie. Il y a une vidéo du procureur, vous savez, l'affaire de fraude fiscale de la Juve qui circule. Donc il est anti-Juventino et pro-Napoli. Et il y a une vidéo qui circule, qui est enregistrée il y a 3 ans, qui est en train de mettre le feu à l'Italie, où en gros il dit moi je suis anti-Juve quoi. Donc c'est en train de mettre un peu le boxon en Italie. Il va nous expliquer ça, Yo.
Ce sera à 22h.
Sur Vitinha, faut préciser maintenant. Surtout avant.
Lequel?
Avant OM, PSG.
Bon. Vous des critiques vraiment déjà sur Vitinha?
Ouais, il y a déjà des trucs genre 32 millions, c'est abusé gros. Tu vois, c'est beaucoup trop quoi.
Des supporters marseillais?
Pas que marseillais, mais même des observateurs.
Non, mais
Yvan Lemay, d'ailleurs, notre pote, hein, qui était hier, par exemple, la chaîne L'Équipe,
hein,
pour ne pas la citer. C'est ce qu'il disait. Il disait, en gros, 32 millions, c'est peut-être too much.
On va attendre après, quand même.
Oui, bien sûr, on va attendre. Le seul souci, c'est qu'il va souffrir forcément de la comparaison avec Terry Mofi, qui lui est déjà prêt, qui lui connaît la Ligue 1, qui lui vraiment a les capacités physiques qui, on le sait, sont quand même nécessaires en Ligue 1, alors que Vitinha c'est quand même un autre profil.
Ouais, et puis là où t'as raison, c'est que il y en a un qui découvre tout et l'autre qui connaît déjà un peu le contexte. Exactement. Quand même.
Et puis Vitinha, alors si je l'avais en face de moi, je lui dirais quand même cuidado, comme on dit chez lui, attention, parce que je l'ai vu faire 2-3 trucs qu'on voit beaucoup en championnat portugais. C'est le mec qui touche tout de suite et tu tombes parce que t'es habitué à ce que l'arbitre siffle vite. Mais là, c'est pas la Ligue 1 portugaise. Hein. Là, ça va être quand même.
C'est la Ligue 1, mon pote.
C'est la Ligue 1.
Ce sera un des débats de l'after à partir de 22h avec Nico Villas, Daniel Riolo et Stéphane Guy. À tout à l'heure, mon cher Nico, je vous rappelle que vous nous appelez au 32-16.
Ah oui.
Oui.
Ah, on va ressortir les meilleurs extraits quand même de l'interview que vous allez faire avec Dante dans quelques instants.
Ah oui. Là. Bien sûr. Attends. Pas très actif, hein, parce que c'est à 20h30.
Non, mais c'est Jérôme Thomas aux manettes. Ouais. Attends.
C'est... Justement, c'est pas ça que je dis.
Tu doutes de Jérôme Thomas, Nico?
C'est la Ligue 1.
C'est la Ligue 1.
Il n'y a plus de ping-pong à ce temps-là, c'est tranquille.
Allez les gars, c'est parti, le 32-16 pour nous appeler, bien sûr. Le hashtag RMC Live sur Twitter pour vos commentaires. Et puis l'application RMC Sport à télécharger si ce n'est pas déjà fait. Pour Direct Studio, envoyez vos commentaires, bien sûr. Alors que Simon, tu me signales qu'effectivement, il y a ce soir une demi-finale du Mondial des clubs entre Flamengo et Al Hilal, club saoudien de Riyad. C'est le club saoudien qui a ouvert le score. 1-0 à l'instant, voilà.
Est-ce que c'est confirmé cette histoire de Coupe du Monde des clubs que veut mettre en place Infantino là?
Championnat du monde des clubs,
ouais, championnat du monde des clubs à 32 équipes.
Je sais pas où t'en es.
Mais franchement, si c'est confirmé,
c'est mis entre parenthèses pour l'instant.
Franchement, là, les bras m'en tombent, mon cher.
Le Real Madrid rentre quand?
Demain soir, Real Al Ahly, équipe du Caire, égyptienne à 20h. On sera là aussi pour en parler, bien sûr. C'est parti donc pour Génération After. Demain soir, Olympique de Marseille, PSG, 8e de finale de Coupe de France, 21h10. La pression est montée un petit peu aujourd'hui au stade d'entraînement de l'OM. Plus de 200 fans appartenant au groupe de supporters sont venus à la séance du jour pour motiver les joueurs et leur faire prendre conscience si besoin que ce n'est pas un match comme les autres. L'entraînement était normalement à huis clos, mais les associations de supporters avaient obtenu l'autorisation de venir spécialement pour cette OM-PSG. Et avant cette OM-PSG, un petit groupe de leaders est même allé dans le vestiaire pour parler aux joueurs. Ça a été autorisé, très bien organisé, pour évoquer l'enjeu de ce match côté marseillais, scène devenue très rare, nous dit Flo Germain, ces dernières saisons. Alors les infos, avant le débat, Nuno Tavares forfait. On a pris aujourd'hui 10 jours d'absence, absence qui s'ajoute à celle d'Eric Bailly qui va purger son 7e et dernier match de suspension. Leonardo Balerdi suspendu également, selon Flo Germain notamment. Kolasinac pourrait profiter de ses absences en défense centrale. Possible également que Tudor utilise Issa Kabore à droite, c'est bascule Jonathan Clauss à gauche. Pourquoi pas également Cengiz Under en piston droit, hein, comme on l'a déjà vu à quelques reprises dans ce début de saison. Alors, Christophe Galtier doit-il aligner demain au Vélodrome sa meilleure équipe possible? On en débat dans un instant. D'abord, écoutons le coach marseillais, tout à l'heure en conférence de presse. Lui, le Marseillais bien sûr d'origine, qui vient pour la première fois au Vélodrome avec l'écusson du Paris Saint-Germain.
Je fais abstraction totale du fait que je sois né à Marseille, que je sois marseillais, que j'ai pu jouer à l'Olympique de Marseille. Je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Je sais ce que représentent ces matchs-là. On n'est pas dans un huitième de finale classique. On est dans une confrontation Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain. J'ai fait en sorte de fermer toutes les arrivées qu'il pouvait y avoir à la fois sur mon portable ou même sur un plan familial pour rester très focus sur la préparation du match et ce que nous devons faire dans le match et aller chercher cette qualification.
Un huitième de finale, pas comme les autres. Évidemment. Pour autant, Galtier doit-il aligner donc demain sa meilleure équipe avant d'enchaîner Monaco samedi soir en Ligue 1. Le Bayern, le FC Bayern mardi prochain en Ligue des Champions. J'en appelle à vous, supporters parisiens au 32-16. La question peut la formuler ainsi également. Cet OM-PSG est-il si important pour vous dans ce calendrier infernal? Tiens, Kevin, je commence avec toi. Est-ce que t'es Christophe Galtier là? Demain, tu dois rendre ta feuille de match, ta compo. Est-ce que t'alignes ta meilleure équipe possible? Jean Mbappé ne sera pas là, évidemment.
Dans cette question, il y a deux réponses. Il y a la réponse si t'es entraîneur du Paris Saint-Germain, et il y a la réponse si t'es suiveur ou supporter d'un des du club du PSG ou juste.
Mais tournons à la place de Galtier surtout, effectivement.
Tu t'es obligé quand même de te poser la question. T'es à une semaine d'un match capital, tu vas jouer face à l'Olympique de Marseille qui est une équipe qui met énormément d'intensité dans un vélodrome qui sera incandescent et tu peux te dire, au vu du fait que t'as un Neymar par exemple qui va revenir de blessure ou dont on n'est même pas sûr qu'il va jouer, t'as un Mbappé qui est déjà sur le flanc, forcément tu dois te poser la question de savoir est-ce que tu vas aligner les joueurs que tu veux voir dans une semaine au Bayern. Après, à cette question, il y a deux réponses. Est-ce que tu alignes ton équipe justement pour la préparer dans une atmosphère qui sera très chaude, dans un match qui sera de très haut niveau, au risque
qu'il y ait des blessures sur des contacts, plus que des blessures musculaires, mais ça peut être sur des contacts. On sait que les Marseillais vont mettre de l'agressivité. C'est un match où il y aura pas d'arbitrage vidéo. Ça va être un match un peu à l'ancienne, même si on espère qu'on va quand même voir du beau football. Donc forcément, la question, elle se pose. Après, je pense quand même que le Paris Saint-Germain ne peut pas non plus faire l'économie d'une victoire ou d'une qualification. Il faut absolument se qualifier pour entamer au mieux cette période de match de très haut niveau qui les attend. Donc voilà, c'est un peu 50-50. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au moindre contact, je sais que l'entraîneur parisien et surtout tous les supporters du Paris Saint-Germain espéreront qu'il n'y aura pas de blessés pour le match face au Bayern. Donc la question se pose.
50-50 pour Kevin, ces deux réponses. Est-ce qu'il y a un avis tranché ici ce soir?
Oui.
Ah oui. Très bien. Opposé, j'espère. Walid?
Bah pour moi,
est-ce qu'il a intérêt à aligner sa meilleure équipe?
Pour moi, le Paris Saint-Germain doit mettre sa meilleure équipe contre l'Olympique de Marseille. Après, sa meilleure équipe, ça veut tout et rien dire, parce que est-ce que Neymar fait partie aujourd'hui de la meilleure équipe du Paris Saint-Germain à partir du moment où il est revenu de blessure? Est-ce qu'il y en a qui te diront?
Moi, je mettrai pas Neymar. Ça, c'est une chose que je peux te dire déjà.
Donc, chacun se fera sa propre opinion là-dessus. Est-ce qu'il est prêt pour un match de ce niveau? Je ne pense pas et je ne le sais pas. Je suis pas à l'intérieur du groupe. Mais pour moi, Galtier doit mettre l'équipe qu'il pense à l'instant T sur la dynamique, la meilleure pour affronter l'Olympique de Marseille. Il y a aussi beaucoup de débats sur Zaïre Emery ou Solaire. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont en balance, mais pour moi, Christophe Galtier ne doit pas galvauder ce match contre l'Olympique de Marseille. C'est un rendez-vous très très important. Quand Galtier est arrivé, il a dit qu'il voulait gagner tous les titres nationaux cette saison. Il joue contre l'Olympique de Marseille avec tout ce que ça représente pour lui aussi. On vient d'entendre un son très très intéressant avant le débat. Et de perdre un titre mercredi soir serait déjà un échec pour le Paris Saint-Germain dans cette saison-là. Et moi, pour moi, Nico, je ferais peut-être même un... S'il doit avoir turnover cette semaine, ce serait contre Monaco où je ferais reposer quelques joueurs avant le Bayern Munich, parce qu'il y a un matelas, 8 points d'avance, et je pense qu'ils sont capables de faire un résultat à Monaco. Par contre, là, il y a un souci de trophée, de titre. C'est un gros, gros match. Pour moi, le Paris Saint-Germain doit mettre sa meilleure équipe.
Walid, moi je suis désolé, je trouve que c'est un discours petit bras qui n'est destiné qu'aux supporters parisiens, parce qu'effectivement il faut toujours avoir
un peu démago.
Ouais, non mais laisse-moi t'expliquer, hein. Toujours un petit peu de prudence évidemment. Oui, Marseille, c'est vrai, on les déteste, vous inquiétez pas, on en fait un objectif et tout. Bon, l'an dernier Paris est sorti en 8e de finale de la Coupe de France, personne s'en souvient. Ça a pas laissé un cratère insondable au moment d'évaluer le bilan de la saison du PSG. Alors oui, ça ferait tâche, oui, Paris doit faire le boulot, ça ferait des ordres, machin. Paris ont moins de marge que les saisons précédentes. À ce titre-là, moi, je considère que du coup, il faut être moins exigeant. Est-ce que est considéré que la Coupe de France, entre le championnat et la Ligue des Champions, tout le monde en conviendra, c'est plus important. La Coupe de France, tu peux peut-être la lâcher. Je pense que la Coupe de France, des dirigeants aux joueurs, en passant par le staff, en vrai, tout le monde s'en fout à Paris. Si jamais tu,
je suis pas sûr de ça. Moi,
franchement, ça n'intéresse plus.
Mais déjà, ça veut dire quoi la lâcher, Simon,
déjà, ça n'intéresse plus personne. Mais laisse-moi aller au bout. Après, tu me réponds. Ça n'intéresse plus personne, que ce soit le public, il a beaucoup moins de valeur. Je pense que même cette Coupe de France, maintenant qu'il n'y a plus la Coupe de la Ligue, tu vois, t'as plus le côté tiens, on a fait carton plein avec les trois étoiles sur ton bilan à la fin de la saison. Je pense que ça a moins d'importance pour tout le monde. Du coup, les deux objectifs plus importants, la Ligue 1, c'est Monaco ce week-end. Je le rappelais, Paris a beaucoup moins de marge que les saisons précédentes, et le Bayern la semaine prochaine. Faut encore savoir ce qu'on veut. Mbappé, il s'est pété à Reims parce que à chaque fois ils veulent jouer tous les matchs, les mecs. Donc, c'est aussi de la responsabilité de Galtier de mettre un petit peu de discipline là-dedans. Là où je vous rejoins tout à fait, c'est qu'effectivement, Neymar, faut pas le mettre dans un match face à l'OM. L'OM qui court beaucoup, qui met beaucoup d'intensité. Il y a toujours, dans un contexte de coupe, le risque de se blesser. Et puis, je pense tout simplement que cette rivalité, je pense que depuis que Paris est quatre étages au-dessus, je pense que cette rivalité, elle est toujours aussi forte chez les Marseillais, mais que chez les Parisiens. Bon, ben voilà, il y a, appelle-le comme tu veux, un peu de soit de condescendance, soit de supériorité. Je pense que c'est moins une priorité qu'à une certaine époque, les confrontations face au Paris Saint-Germain.
On fait une pause, tu pourras répondre, Walid, dans un instant à Simon, bien sûr. On va revenir sur RMC. Vous nous appelez au 32-16, supporter du PSG. Votre avis sur cette question, Christophe Galtier a-t-il intérêt à aligner sa meilleure équipe possible demain? Ce sera ce match à 6 jours du Bayern, je le rappelle. Mercredi soir, mardi soir pour le Bayern, mercredi soir, demain soir pour OMPSG. On vous attend au 32-16. La suite des générations after dans un instant. 20h14, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Walid Acharchour et Simon Dutin, RMC 20h16. Je vous rappelle que dans une quinzaine de minutes, nous serons avec le capitaine de l'OGC Nice, Dante, qui sera avec nous pendant une bonne vingtaine de minutes. D'abord Marseille, bien sûr, PSG. Marseille-PSG demain soir, Coupe de France à 21h10. Ce sera évidemment en direct sur RMC. Le débat, Christophe Galtier doit-il aligner demain au Vélodrome sa meilleure équipe possible avant d'enchaîner Monaco et le Bayern en 5 jours. J'accueille Brahim au 32-16. Promis, tu auras la parole après Walid dans un instant. Brahim est avec nous. Salut,
tu vas pas la confrontation avec Brahim. Simon.
Tu vas la voir. Salut Brahim.
Salut.
Heureux d'accueillir dans Génération After. Supporter parisien, je précise. Hein.
Oui, supporter parisien. Et à ce titre-là, un match contre l'OM, c'est jamais un match banal, c'est jamais un match à ranger dans les. Il faut faire tourner, il faut se préserver, etc. Le meilleur moyen de préparer le Bayern, c'est de battre l'OM, quoi. C'est-à-dire que ça suffira pas pour dire on est bien préparé, on est prêt pour le Bayern. Mais on s'évite une crise en perdant contre l'OM. Voilà, moi il y a pas. Et puis l'argument de la Coupe de la Ligue qui a disparu, la Coupe de France a moins d'importance de ce fait. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse.
Moi aussi.
Il y a plus qu'une coupe.
Donc tu dois la gagner.
Faut la prendre, quoi.
Bien sûr.
Surtout contre l'OM. Il y a pas. Enfin, pour moi, il y a presque pas de débat, quoi.
Non, mais moi, pour le coup, j'ai vraiment du mal avec tous les arguments de Simon. C'est-à-dire que ça soit le facteur Coupe de la Ligue qui n'existe plus doit renforcer le fait que le Paris Saint-Germain doit au moins faire doubler. Surtout que l'année dernière, moi, je suis pas d'accord avec toi, Simon. On avait critiqué le fait que Pochettino se soit fait éliminer.
Oui, critiques une semaine, Walid. Ah, oui. À chaque fois, tu dis franchement, ah, c'est un et tout. Et
puis Simon, c'est du football.
Tout le monde s'en fout.
Simon, c'est du football. On va pas.
Tout le monde s'en fout.
Attends, Brahim, je te rends la parole. Brahim, juste pour terminer, ça reste du football. On va pas parler pendant un an et demi de Pochettino. Il est parti, bien évidemment. Qu'on l'a critiqué quand il fallait le critiquer. Cette année, si pour la deuxième fois consécutive tu ne gagnes pas la Coupe de France, ou en tout cas tu te fais éliminer aussitôt, et surtout face à ton rival marseillais, sur ton argument sur le fait qu'il y a beaucoup de condescendance chez les Parisiens.
J'ai pas dit beaucoup, j'ai dit peut-être un tout petit peu. Voilà comment tu transformes.
Excuse-moi Simon, peut-être un petit peu. Pour le coup, cette année, il y a énormément de supporters parisiens qui reconnaissent que Marseille joue très bien au football, que ça joue même beaucoup mieux que le Paris Saint-Germain, et ils ont qu'une envie, c'est de battre cette équipe de l'Olympique de Marseille pour dire à tous les observateurs et tous les supporters, ah bah vous voyez votre magnifique équipe de Marseille, nous on a bien vu. Et juste pour terminer Kevin, c'est que je suis désolé, mais si le Paris Saint-Germain met une équipe, alors déjà je sais pas quelle est l'équipe tu veux mettre Simon, j'aimerais bien la connaître hein, parce que
il y a pas un choix de façon non plus.
C'est pour ça, j'allais y venir, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de blessés qu'il y a ou de retours de blessures au Paris Saint-Germain ne te laisse pas une marge énorme pour faire une revue d'effectifs. Il n'y a pas deux équipes au PSG, donc tu vas être obligé de mettre des gros joueurs dans la composition de départ. Et surtout, Simon, moi je suis désolé, mais si tu ne gagnes pas contre Marseille, au-delà du fait d'avoir perdu une possibilité de titre, en 2023, t'auras perdu contre Lens, contre Rennes et contre Marseille avant le Bayern Munich. Les signaux pour le Paris Saint-Germain seraient désastreux.
J'aurai la parole à Brahim et tu l'auras dans un instant également, Kevin. Brahim, tu voulais réagir?
Ouais, non, je suis d'accord avec Walid sur ce coup-là. On n'a pas le luxe, on peut pas se permettre ce luxe-là de laisser filer une compétition. Premièrement, contre l'OM. Deuxièmement, à une semaine. Du Bayern Munich, on va s'éviter une crise. Galtier il a pas ce luxe-là, il peut pas se permettre ça. Moi, je me rappelle de l'époque où on était mauvais en championnat et les joueurs attendaient l'OM le pied ferme juste pour se racheter au niveau des supporters. J'aimerais bien que ce soit cet état d'esprit-là.
Oui, mais alors là, Brahim, je suis désolé de te couper, mais si tu crois que les joueurs parisiens ils veulent se racheter contre l'OM, je sais même pas s'ils savent qu'il y a une rivalité avec l'OM. J'exagère. Le truc c'est toujours pareil. Walid dit ouais, les supporters parisiens ils veulent rabattre le caquet des Marseillais parce qu'on dit qu'ils jouent mieux, etc. Non mais encore une fois j'extrapole un peu. Mais si demain t'as des blessés du côté parisien et qu'ils jouent pas contre le Bayern et que tu fais éliminer, eh ben t'auras les mêmes ou t'auras certains supporters et je peux les comprendre qui diront ah mais t'as vu l'autre il s'est encore blessé. Peut-être que le match de l'OM c'était pas le plus important.
Mais c'est de la science-fiction ça, Kevin.
Non, c'est pas du tout.
Donc en fait le PSG ne joue plus aucun match.
À partir du moment où tu vous dites toi Ibrahim que le Paris Saint-Germain, j'allais dire vous, que le Paris Saint-Germain n'a pas de marge. Mm. Donc à partir du moment où quand tu n'as pas de marge, il y a des entraîneurs aussi qui peuvent se laisser le droit de mettre certains joueurs clés au frigo. Ça existe.
Ce qui ne veut pas dire les gars, laissez filer ce match demain. aussi gagner.
Est-ce que tu peux me soutenir? Et ce qui ne veut pas dire, merci Nicolas Jamin, laisser filer une compétition. On n'arrête pas de dire qu'il faut faire jouer les jeunes au PSG. Oui. Est-ce que tu peux pas faire jouer Warren Zaïre-Emery
dans ce match? Mais Chiabou, par exemple.
Mais Warren Zaïre-Emery, c'est pas un problème parce qu'il est meilleur que Solaire sur la dernière dynamique. C'est la réalité. C'est la réalité. Sur la dynamique, il est meilleur que Solaire.
Qui jouera contre le Bayern.
Non, mais peut-être pas. Mais je pense qu'il y aura d'autres joueurs.
Pour moi, il n'est pas aujourd'hui titulaire indiscutable. Lui laisser du temps de jeu, lui laisser montrer ses qualités face à l'OM dans un contexte difficile pour son apprentissage, ce serait très bien. Mais ça ne voudrait pas dire que si le PSG est éliminé, on dira qu'ils ont laissé filer. Moi, si tu mets, par exemple, je ne pense pas que ce sera le cas. Bon, Neymar, moi je le mets vraiment au frigo pour le coup. Et je le laisse jouer contre Monaco, qui est une équipe avec un autre style de jeu, une autre agressivité. Et ce sera au Parc des Princes, si je dis pas de bêtises.
Non, ce sera à Monaco.
Sera à Monaco, mais un autre contexte, okay. à Louis II.
D'accord, je peux l'entendre, ça.
C'est comme si tu jouais à domicile.
Ok, passons Neymar.
Donc, passons Neymar.
Messi, mais tu le fais jouer, Messi.
Mais même Messi.
Tu le fais pas jouer.
J'ai pas dit que je le fais pas jouer. Étant donné que c'est ta dernière.
Tu fais pas démarrer.
Dernier, tu fais pas de tour X. Je ne dis pas que je le fais pas
jouer. Simon le fait également.
Je dis juste que je réfléchis. Et je discute avec lui, savoir ce qu'il pense.
Attends.
Voilà. Parce que demain, le match le plus important des 7 prochains jours ou des 8 prochains jours, ça reste quand même le match du Bayern.
Des 6 prochains jours,
Et surtout, voilà. Excuse-moi, t'as Marseille en coupe, t'as Monaco en championnat et t'as le Bayern. Oui. Donc tout ça en une semaine. Donc tu vas m'expliquer que tu peux jouer les trois à fond.
Simon.
Sur lequel tu fais l'impasse. Sur Monaco qui a failli te taper au parc.
Mais sûrement.
Au match aller et qui est en pleine bourre.
Brahim.
Tu peux encore moins te permettre
Brahim,
de perdre que la coupe.
S'il faut sacrifier, entre guillemets, parce que Paris, en faisant tourner, ne sacrifie pas forcément des matchs. Hein. Quel match tu mettrais de côté sur les trois qui viennent? Enfin, sur les deux qui viennent, en fait.
Non, mais après, il y a une logique aussi de retour à la compétition. Neymar, il revient à la compétition, il revient de blessure. Évidemment, voilà. Messi, c'est lui qui décidera s'il joue ou pas, comment il la sent, comment il se projette sur une semaine comme ça avec trois matchs. C'est lui qui connaît mieux que quiconque. Mais franchement, Monaco, je pense que Monaco, on peut gérer en championnat. Voilà. Je pense que Monaco, on peut gérer en championnat.
Ils ont failli vous taper au parc au match aller. T'as vu Paris dominer Monaco au match aller. Qu'est-ce qui te permet d'être aussi confiant dans le fait que vous allez aller dominer Monaco tranquille à trois jours du Bayern?
Attends. On me demande de faire un choix. Maintenant, laisse-moi expliquer le choix. La priorisation, pour moi, elle intervient parce que c'est un match de Coupe de France. T'as pas le droit de te rater. Tu perds, tu sors. Voilà. Championnat, tu peux faire un match nul. T'es pas mort, en fait. Là, tu perds tes
mains. Je t'entends, mais bon.
Voilà, c'est juste ça. Maintenant, évidemment, le Bayern, c'est la priorité absolue. Tout doit être fait pour arriver au top au Bayern. Mais les gars, on connaît tous un petit peu le football. Il y a tellement d'impondérables. C'est impossible de planifier les risques de blessures, etc. L'Otemri, il était arrivé avec son logiciel là, qui mettait des codes couleurs. Ouais. Quand t'es en route, tu peux pas jouer parce que le risque de blessure, il est au max. Mais au final, ça évite pas les blessures. Moi, on m'a toujours dit que pour bien préparer un match, il fallait être à fond. Voilà, stop.
Mais je suis d'accord avec toi, Sabri. Moi, je trouve ça dingue parce que c'est pour ça que le problème, c'est que sur le débat, donc il y a Simon qui est très tranché en disant qu'il veut laisser filer le match. Et que
je dis pas laisser filer, mais donner l'opportunité. On nous vend en plus la jeunesse.
Donne-moi ta compo.
Moi, je mets tout le monde. Je mets Solaire et Zaïre-Emery. Je mets Kitike, je lui dis vas-y gros, va nous faire gagner un gros match, enfin vas-y, commence à construire ton histoire dans cette équipe,
okay.
Donne-lui des responsabilités, ouais. Je mets Messi au frigo, je mets Neymar au frigo, et même dimanche et même ce week-end peut-être que je le mets pas, je suis désolé.
Tu te rends compte après la entre guillemets la honte pour les supporters marseillais ou pour les Marseillais si le PSG les bat avec une équipe A'?
Mais on s'en fout, Kevin.
Énorme.
Non mais Kevin, en fait moi il y a un truc que je comprends pas.
Là on sourit.
Bien évidemment, mais Simon, donc, en fait, il veut mettre la même équipe que le PSG a affronté
Châteauroux.
C'est exactement la même équipe qu'il veut. C'est-à-dire donc Garbi, Solaire, Ekitike, Zaïre-Emery, Bichabou derrière. C'est ça que tu veux envoyer.
Je te provoque un peu, non, mais je rajoute un peu, mais j'ai bien envie de
moi, je comprends pas comment le Paris Saint-Germain. Alors moi, je vais t'expliquer mon raisonnement, si je peux le terminer, jusqu'au Bayern de Munich. C'est que, pour moi, un mec comme Lionel Messi doit jouer. Pour moi, un mec comme Marco Verratti doit jouer 70 minutes, notamment. Et un mec comme Neymar, vu qu'il revient de blessure, je le fais jouer sur le banc et il démarrera contre Monaco. Et Messi ne jouera pas contre Monaco, notamment. Et ça permettra à ces mecs-là d'avoir au moins un match de haut niveau avant le Bayern Munich. Et surtout d'avoir une équipe compétitive, que ce soit contre Marseille et contre Monaco.
Tu crois vraiment que Messi jouera pas contre Monaco?
Mais moi je te dis, si je me mets à la place de Galtier, Kevin, on me pose la question. Et le turnover, le fameux turnover que vous appelez, enfin toi à demi-mot, Kevin, si j'ai bien compris, parce qu'en fait finalement on est d'accord, moi et toi, hein, on met pas Neymar, mais sinon on met une équipe convenable pour battre cette équipe de l'Olympique de Marseille. Eh ben, je suis désolé, c'est pas sur un rendez-vous aussi important que Marseille. Monaco, tu peux aller faire un nul là-bas et rester à 6-7 points de Marseille ou de Lens. Et ce match-là sera nécessaire pour la suite de la saison.
Je rappelle que Paris va rejouer Marseille deux
bien
semaines
sûr,
plus tard.
Voilà.
Et que, non.
Bah pourquoi?
Que s'il y a une défaite demain avec une équipe panachée de jeunes joueurs et de joueurs plus expérimentés, tu pourras te récupérer.
Mais un titre, c'est un titre.
Ton match de
Galtier,
la saison,
c'est sa première saison, Nico. Il doit gagner un titre. Je répète, hein. Mais si le Paris Saint-Germain en 2023 aura donc perdu contre Lens, contre Rennes, envoyé l'équipe que Simon veut envoyer contre Marseille, qu'il y a défaite contre Monaco, ou il y a contre-performance contre Monaco parce que la dynamique sera mauvaise et qu'il y aura crise, et que contre le Bayern ça se passe mal, mais on revient dans deux semaines, mais c'est plus la crise au Paris Saint-Germain, c'est n'importe quoi. Et c'est ce que vous voulez. Allez, en fait.
Je remercie Brahim, on a fait le 32-16. Merci à toi, Brahim.
Merci.
Bonne soirée à toi, Brahim. À très vite sur RMC. On va dans un instant.
Je suis d'accord avec toi, Brahim.
Avec notre invité.
On est là pour t'accompagner.
Dante sera avec nous, capitaine de GC Nice. Plein de questions à lui poser. Vous pourrez nous appeler au 32-16. C'est Génération After sur RMC, 20h27. À tout de suite.
RMC, 20h22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Simon Dutin, Kevin Diaz et Walid Acherchour, vous écoutez RMC Génération After, 20h30, et nous accueillons le capitaine de l'OGC Nice, monsieur Dante Bonfim Costa Santos, est avec nous. Bonsoir, Dante.
Bonsoir.
D'abord, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de t'accueillir dans Génération After. Je précise en plus que tu prends du temps, c'est ton unique jour de repos de la semaine, pour nous accorder une interview, et ça, c'est la classe, et ça ne nous surprend pas. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous dans l'émission. Bon, comment ça va en ce moment, Dante? J'imagine que les journées sont plus légères actuellement.
Bien sûr, surtout après nos derniers résultats, les journées sont un peu plus légères, bien sûr, parce que les résultats, ils font que les journées soient meilleures, plus simples, et donc voilà, on est très contents, mais malgré tout, il va falloir encore continuer à travailler très très dur.
Je vais qu'on revienne un peu quand même sur la victoire à Marseille dimanche soir, elle est spectaculaire, 3-1 au Vélodrome. Ce que vous avez réussi à Marseille, est-ce que c'est exactement ce que vous aviez imaginé, mis en place avec ton coach, hein, dont on va parler dans un instant?
Oui, c'est exactement ça, c'est... nous avons bien étudié l'équipe marseillaise. On a fait un plan pour bien leur contrer dans leur animation offensive. Je pense qu'on a bien réussi. On a bien réussi aussi nos transitions. C'est ça qu'on voudrait. Et donc le plan, on peut le dire qu'il était parfait.
C'est un beau cadeau que t'as fait Igor Tudor, le coach de l'OM, hein, en alignant Vitinha pour son premier match en Ligue 1, premier au Vélodrome. Tu l'as mis dans ta poche, hein, Vitinha?
Pas, c'est pas un cadeau du tout, pas du tout. Vitinha, attention, c'est un très très bon joueur. Après, c'est pas évident. Il est encore jeune. Il arrive dans telle ambiance, tel stade, dans un derby, contre une équipe que dernièrement travaille très bien défensivement aussi. Donc non, c'est pas passé un cadeau. Je pense que c'est clair qu'il a pas peut-être réussi ses premières 45 minutes, mais je pense qu'il va réussir dans le championnat français, il va réussir encore marquer beaucoup de buts.
Bon, qu'est-ce qui se passe à Nice, Dante? On se pose la question, bien sûr, depuis l'arrivée de Didier Digard le 11 janvier dernier. 4 victoires, Montpellier, Lille, Lens, Nice, un nul à Reims, chez le grand Will Steele. Vous êtes à 6 points désormais de l'Europe seulement. C'était inespéré. On veut savoir ce qui s'est passé. Comment t'expliques ce réveil brutal, forcément attribué à ton coach Digard?
Je pense déjà il a réussi à faire que les joueurs se lâchent. Vraiment, on sentait au fur et à mesure du temps qu'il y avait une certaine crispation de la part de beaucoup de joueurs, et voilà. Après, de toute façon, on le sait très bien que dans un changement de coach, il y a toujours un impact dans un effectif, dans l'attitude, le comportement. On a l'impression que les joueurs, ils sont plus impliqués, plus motivés. Mais c'est l'être humain qui est comme ça. Et je pense qu'après, c'est que le coach Gaël très bien fait, c'est que nous avons apporter ce que nous avons eu besoin. C'est cette fraîcheur mentale, c'est cette confiance de, en nous déjà, cette confiance que nous pouvons faire des belles performances avec notre intensité, notre discipline, notre agressivité. Et il a réussi. Il a réussi très bien par son discours, par son, sa façon d'être, par son, son, son leadership qu'il est, qu'il a, pardon. Donc je pense que tout ça, ça a eu un gros effet.
Simon. Donc c'est, ouais, c'est Simon. Salut, rebonsoir. Vous avez fini troisième du championnat avec Nice, avec Lucien Favre sur le banc. Il y avait Balotelli, Belanda à l'époque dans l'équipe. C'est quoi la différence majeure selon toi entre Favre 1 et Favre 2 à l'OGC Nice? Qu'est-ce qui a pas marché cette fois-ci?
C'est jamais évident de comparer, même si c'est pour la même personne, mais il n'y avait pas le même effectif. Je pense que c'est la première fois qu'il était ici, on avait une génération quand même que elle était différente déjà. Elle était plus autonome. C'était peut-être plus évident de leur gérer et aujourd'hui un peu moins, malgré que on s'est qualifié quand même en premier en Conference League, malgré que c'était pas constant, mais on a eu quand même certaines performances qu'elle était bien. Et je dis notamment à la fin, avant qu'ils partent, surtout à la fin du premier tour, on a fait une belle série. Voilà.
Justement, Dante, tu parlais tout à l'heure des changements. Quels sont les changements les plus notoires entre Favre et Digard? Moi, je te donne un exemple. Est-ce que vous entraînez plus les mêmes jours, deux fois par jour, une fois par jour? Est-ce que les entraînements ont changé? Est-ce qu'il y a plus de ballons, moins de ballons?
Le management.
Ouais. Alors, on sait que Digard est peut-être plus adapté, comme tu l'as dit, aux nouvelles générations. Il est plus proche de ces générations-là.
Ouais, il a plus de codes.
Voilà.
Il a plus de codes dans la communication, dans l'approche.
C'est-à-dire, dans les codes, c'est quoi la nouvelle génération par rapport à l'ancienne, par rapport à la tienne aussi d'ailleurs?
Ouais, mais ça veut dire qu'on le sait comme leur palais. On le sait comment eux, ils se sont vexés. Avec simplement un avis d'un coach, simplement un conseil. Donc on le sait tout aujourd'hui, comment s'approcher des joueurs pour pas leur vexer et leur faire comprendre vraiment l'intérêt de cette autocritique-là, par exemple. Je pense que c'est qui a changé par rapport aux entraînements aussi, c'est la nouvelle direction. Elle a mis en place une équipe pour travailler avec l'autre performance, avec surtout avec Laurent, Seb qui est arrivé aussi de Saint-Etienne. Il y a Gislain aussi qui reste avec nous, qui font un travail aussi remarquable, on peut le dire. Et ça a changé. Il y a beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de rythme, beaucoup plus de dynamique. Et ça, on voit que ça nous fait du bien. Tandis qu'avant, on était plus sur la tactique, sur la idée du jeu. Et je pense qu'ils ont très bien fait de hausser notre intensité, notre agressivité et discipline sur les entraînements pour justement pouvoir mettre ces idées-là en place.
Tu parles depuis tout à l'heure, Dante, de cadres, des dirigeants notamment, qui ont besoin de mettre quelque chose en place pour que les entraîneurs soient performants. Donne-nous un peu ton avis, toi, sur ce qui se passe avec ce Nice d'Ineos depuis 2-3 ans et sur ce qui est en train de se mettre en place actuellement. Tu as parlé de Gisolfi qui est arrivé, il y a des personnes compétentes comme Jean-Claude Blanc aussi. Est-ce que tu sens que voilà, il y a une cellule performante qui vient d'arriver? Est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens? Et est-ce que tu n'étais pas aussi un peu frustré comme nous sur les dernières années? Voilà, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus.
C'est clair que quand vous avez un tel investisseur avec ce potentiel-là, tu attends tout vite et tout de suite. Et c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont d'abord étudié l'environnement, étudié la situation, et ça a pris du temps. Ça a pris du temps à leur faire comprendre ce que nous avons vraiment besoin. Et puis je vais faire une parenthèse aussi. Comme vous me parlez des 2-3 ans, je tiens à vous dire aussi que Julien Fournier, il était très 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 performant et il avait beaucoup de qualités aussi. Je pense que la façon d'Ineos voit les choses à 2-3 ans en arrière, c'est pas la même qu'il voit aujourd'hui.
Et oui.
C'est ça la différence. C'est ça vraiment la différence.
Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a l'arrivée de Fabrice Boquet, Jean-Claude Blanc, Gisolfi.
Oui,
j'ai l'impression quand même qu'il y a eu un coup d'accélérateur là sur les dernières semaines. Pour quand on voit l'intersaison, c'était un peu compliqué. On savait pas qui s'occupait du recrutement.
Mais évidemment, c'est pour ça qu'eux ils ont compris. Ils ont compris que avant de tenir un projet, de mener un projet, il te faut des gens qui cadrent, qui montrent la voie aux gens. Et ça, c'est le plus important. Quand on voit Monsieur Blanc qui va débarquer, tu dis waouh, ok. Boquet, il est là, il fait un, il a déjà prouvé ses compétences. Kizofi, pareil, c'est un jeune, mais il prouve qu'il a, l'énergie, il est passionné par ce qu'il fait, il est très confiant sur son travail. Et ces gens-là, ils commencent à nous amener d'autres personnes avec beaucoup de valeurs, avec beaucoup d'expérience aussi sur l'autre performance, et que ça fait la différence. C'est simple que ça.
Dis-moi, Dante, ça fait quoi d'être plus vieux que ton entraîneur?
Bah, ça fait bien, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien.
Ah bon? Tu prends un coup de vieux quand même. Ton coach, il a 36 ans, t'en as 39.
Ça veut dire que voilà, qu'on a tenu un peu plus de temps que les autres. C'est bien. Donc, non. Blague à part, le plus important, je pense, c'est d'avoir toujours ce respect sur la hiérarchie, d'écouter ses consignes, d'écouter aussi ses critiques. S'il y a quelque chose de négatif à me dire, ou qui me demande à changer, c'est toujours cet regard avec beaucoup de respect, comme s'il était aussi plus vieux, et d'être là vraiment, être à sa disposition pour l'aider avec quoi que ce soit dans le management de vestiaire, dans des petites choses qui se passent sur le terrain tactiquement, etc. Donc voilà, après ça montre aussi que le foot est en train de ouvrir les portes à la nouvelle génération et surtout des coachs, et c'est bien.
Dante, notre invité, merci d'être avec nous encore, capitaine de l'OGC Nice. On fait une pause, hein. Tu restes avec nous, bien sûr. On a encore pas mal de questions à te poser. Vous écoutez Génération After, 20h40. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After RMC avec Simon Dutin, Kevin Diaz et Walid Acharchour. Nous sommes avec le capitaine de l'OGC Nice, Dante. Dante, pour revenir sur ton entraîneur justement, Didier Digard, est-ce que tu penses qu'il peut porter sur la durée l'ambitieux projet d'Ineos?
Écoute, on ne sait jamais dans la vie, hein. C'est au départ, il est parti pour 1-2 matchs. Maintenant, ça fait déjà quelques uns. On est tous contents. On le voit peut-être finir la saison et puis s'inscrire dans son diplôme, passer son diplôme pro. Vous voyez, je pense que la vie, elle est faite de des opportunités. Et ce que tu fais avec les opportunités que nous avons, c'est que ça. Comme il est en train de la profiter. Pourquoi pas?
S'ils continuent avec cette moyenne de points par match, les dirigeants vont forcément peut-être y réfléchir au moins.
Faut rappeler que Francaise à Lens avait démarré aussi dans des circonstances
en Ligue 2.
En Ligue 2, en étant intérimaire, et il avait continué avec Gisolfi, donc peut-être que ça va prendre ce chemin.
Il faut ouvrir la porte à tout, les portes à tout, parce que le foot ça va tellement vite. J'ai dit toujours, il n'y a pas de science exacte. Donc voilà, mais avant de penser plus loin, déjà il faut qu'on reste très concentré par rapport aux prochains enchaînements, et après on verra.
Walid.
Dante, je voulais parler de tes performances actuelles que je trouve meilleures par rapport à la saison dernière, où j'avais senti que, mais c'est normal dû à ton âge aussi avancé, que physiquement c'était un peu plus compliqué. Il y avait eu beaucoup de cartons rouges en deuxième partie de saison. Là, je ressens sur le terrain, à l'image du match contre Marseille, peut-être c'est dû au système, mais que t'es de mieux en mieux. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu te sens mieux, là, cette saison, ou c'est une fausse impression?
Non, je me sens mieux, oui. Oui, vous avez raison. Après, je pense que c'est vrai que la saison dernière, j'ai eu un coup de moins bien. Parce que c'est 3 cartons rouges, c'était en 3 semaines d'affilée en plus, et ça m'a frustré un peu, et ça m'a gâché un peu la saison dernière. Je pense que la saison dernière était aussi bonne, mais quand vous dites là, il m'a frustré, j'étais moins bon, moins frais mentalement, moins frais physiquement, et cette saison j'ai pas eu ces coups là. ses coups des moins de fraîcheur, tant physique qu'en mental, et ça me fait du bien, et ça me fait du bien parce que il y a beaucoup des épreuves et je l'apprends toujours avec un beaucoup de discipline, de personnalisme et voilà.
Il y a aussi dans, excuse-moi, je te coupe juste pour aller dans ton sens et te laisser développer sur ceux qui jouent aussi à côté de toi. Là aujourd'hui, on voit vraiment que Todibo a clairement pris à tes côtés. Je pense que tu dois lui apporter beaucoup une dimension exceptionnelle.
Exactement, et ça, je suis aussi très content. Je peux même te dire, je suis fier de sa progression. Parce que JC, il dégage beaucoup d'expérience déjà. JC dégage une aura déjà très positive. Et je pense surtout l'année dernière, il s'est mis trop la pression dans le côté leadership, dans le côté du résultat aussi. Et ça, à un moment donné, ça le ralentit un peu. Mais je pense qu'il a tout compris. Il est parti en vacances, il est revenu. C'est une autre personne, un autre homme, un autre joueur de football. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je peux vous garantir que ces joueurs-là, il va jouer au très très haut niveau s'il continue à travailler comme il travaille. C'est un passionné par le foot. Et même son quotidien vis-à-vis de ses partenaires du club. Il a pris un ampleur énorme parce qu'il a une belle aura, il est positif, c'est quelqu'un très agréable à vivre. Et je suis sûr que bientôt, ça ne me surprendra pas du tout le voir être appelé en équipe de France.
Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez de ses performances parce que ça fait 2-3 ans qu'il est à ce niveau-là à Nice. Son passage au Barça contrasté, c'est normal parce qu'il était jeune et à l'époque c'était compliqué. Je pense que ça l'a forgé. Et aujourd'hui, ça, c'est vraiment une valeur sûre de notre
équipe.
Il
a mûri, effectivement. Vraiment, notamment dans le travail au quotidien, ce que tu disais, Dante. Alors, Dante, attention, question. Prolongation de contrat. Comment on te la pose tous les ans, à Nice. Tu auras 40 ans en octobre prochain. T'es en fin de contrat à l'issue de la saison. On sait que toi, tu te sens continuer. Est-ce que tu en parles actuellement avec ta direction et qu'est-ce qu'en pense la direction, si c'est le cas?
Non, on parle pas pour l'instant. C'est clair que Kizofi, dès qu'il est arrivé, on s'est parlé tête à tête. Il m'avait fait savoir ses envies, qu'on voulait continuer à travailler ensemble. Mais pour l'instant, on parle pas. Mais après, je suis quelqu'un que j'aime plutôt me concentrer sur mes performances sur le terrain qu'en dehors. Et je vais laisser ça au club quand ils pensent que c'est le bon moment de venir pour qu'on parle de ça. Mais en tout cas, je me sens, je vous parle plutôt physiquement hein, parce que après il y aura pourra avoir des mauvaises performances, mais physiquement et par rapport à mon âge, je sens pas encore que c'est le moment d'arrêter et je vais pas arrêter l'année prochaine parce que je me sens vraiment bien physiquement.
Donc du coup il y a donc cette envie affirmée, tu viens de nous le redire, de poursuivre à un âge où tu serais pas le premier de tes compatriotes à jouer aussi tard. On pense évidemment à Hilton ici, Thiago Silva à Chelsea, avant vous il y a eu Aldair, Marcio Santos, il y en a eu tant d'autres défenseurs brésiliens. Est-ce que ça fait partie de la spécificité du défenseur brésilien? C'est quoi le défenseur brésilien? Est-ce que tu te sens, toi, archétype du défenseur brésilien, si ça existe?
Ouais, je sais pas si ça s'existe, mais bon.
C'est quoi la recette?
On a eu beaucoup d'exemples.
C'est le pinard, Dante, on le sait, un verre de vin tous les jours.
Oui, on le met du match, mais je sais bien si, mais bon, c'est pas, il faut pas donner cet exemple à tout le monde. Mais je pense que voilà, peut-être que on aime tellement le foot, certains joueurs et nous tous nos défenseurs que on s'est mis en disposition de se faire mal, de tout faire pour rester durer le plus longtemps possible. Et quand tu vois la plupart de ces défenseurs-là, ils sont des leaders. Ils aiment bien à prendre son équipe à ses épaules, à leur parler, à leur faire avancer, à leur faire progresser. C'est une fierté au-delà du simple football. C'est-à-dire que tu es là sur le terrain, tu as tous les entraînements, mais tu es en train de faire d'autres personnes progresser. Et c'est ça qui nous fait chaud au cœur et c'est ça qui nous fait du bien. Et aujourd'hui, je prends tous les jeunes j'ai envie de leur apporter encore plus. Mais il faut aussi faire attention avec la nouvelle génération. Il faut pas trop leur donner d'informations parce qu'il faut être simple, juste et droit. Il faut dire simplement ce qui l'intéresse vraiment pour progresser. Et pour moi, c'est une grosse fierté, c'est du plaisir, c'est du bonheur pouvoir partager mes expériences avec eux au vestiaire au quotidien.
Qu'est-ce que tu préfères, Dante, dans ton quotidien de footballeur? T'as 39 ans, tu veux continuer encore. Quel moment de ta journée de footballeur professionnel que tu préfères, ou ta semaine même?
Que je préfère? Quand j'ai fini un entraînement très très dur et que je me sens capable encore de faire d'autres efforts. Ça, c'est le moment que je préfère. C'est parce que c'est ça qui me donne l'assurance que je suis encore et j'y vais rester encore. Parce que il y a toujours le bonheur du jeu, bien sûr. On fait beaucoup de choses avec le ballon de toute façon. Mais cette sensation d'avoir fait un gros entraînement, une grosse séance, d'avoir se fait mal et que tu sois là encore et partager l'expérience avec les jeunes, de l'expliquer l'importance de vouloir se faire mal, c'est pour moi c'est magnifique.
Dante, j'ai trois questions à te poser, qu'on pose habituellement à nos invités footballeurs en activité. Quel est ton plus grand souvenir de footballeur?
Mon plus gros souvenir,
Ligue des Champions, Bayern de Munich.
Très, très, très bon, mais c'est vrai que la Ligue des Champions avec le Bayern de Munich, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, je suis entre deux parce que le jour où j'ai marqué avec l'équipe nationale dans ma ville, qui avait toute ma famille et toutes mes amis, tout ça, j'ai vu beaucoup de gens pleurer après mon but contre l'Italie, c'est aussi un moment extraordinaire parce que j'ai joué dans cette stade-là que deux fois dans ma vie, et une fois c'était l'équipe nationale avec toutes mes parents, toutes ma famille, toutes mes amis, j'ai pu réussir à leur apporter cette bonheur, cette émotion, et qui tu vois tout le monde qui pleurait, c'était beau, c'était remarquable pour moi.
Bon, je ne demande pas ton souvenir le plus douloureux, hein, Dante. Hein, je pense qu'on le connaît. Je pense
vous n'avez pas besoin de me le demander. Ouais.
Effectivement, Coupe du Monde 2014, demi-finale face à l'Allemagne.
Ça restera à vie, ça, Dante, cette défaite contre l'Allemagne.
Je pense que dans le foot, il n'y a rien qui restera à la vie. Parce que c'est bien beau de dire ouais, j'ai gagné la Champions League. Ouais. Oui, mais c'est passé. Si tu peux nous partager un peu d'expérience, c'est bien. Après, c'est du passé, il faut passer. Le foot, et on a un souvenir, comment on peut dire, on oublie les choses tellement vite, et tellement vite. Les victoires, les trophées, les gens oublient tellement vite qu'il ne faut pas que les mauvais souvenirs, il ne faut pas que tu le gardes à vie. Parce que là, sinon, tu te sabotes pour
c'est
moi.
C'est intéressant.
C'est bien pour ce que tu dis, c'est parfois dur de le faire, hein, d'oublier les mauvais souvenirs. Dernière question, quel est l'attaquant le plus fort sur lequel tu as eu à défendre
Pendant toute ma carrière?
Oui.
Il y a plusieurs.
Ah oui, j'imagine.
Plus impressionnant.
Il y a plusieurs, mais on peut dire que Lewandowski, c'était... Il me faisait chier de temps en temps.
Quoi, les appels de balles, les contre-appels?
Il l'a connu, contre Dortmund, c'était quand même un sacré spécimen.
Ah ouais,
oui.
Déjà au Borussia.
Ouais.
Et à l'entraînement, à l'entraînement, parmi tes coéquipiers?
Aussi, Lévi.
Lévi, évidemment.
Justement, lui.
C'est quelqu'un qui travaille à 100% tous les jours. Il s'y donne à fond tous les jours. Dans les duels, il calcule pas. Il va vraiment avec une grosse agressivité. Et c'est ça qui fait que il tient encore aujourd'hui. Il garde cette agressivité offensive que parfois les gens confondent, hein, sa qualité technique et sa qualité de buteur avec son agressivité pour marquer un but. Et ça s'entraîne aussi.
Et
c'est
Nice,
pour ça que moi, il est fort.
Et à Nice?
Mario Balotelli, évidemment.
L'attaquant.
Oui.
Ah, attention, c'est sur les entraînements, Mario était plus tranquille. Sur l'entraînement, Mario était un peu plus tranquille. Hein. Il était très tranquille même. Mais là, je pense qu'on a réussi à trouver un bon client là. Hein. Mofi, Terrain, ouais. C'est pas mal. Hein.
Ah
c'est
oui.
Pas
mal. Tu vois déjà l'entraînement que c'est fort, effectivement.
Oui. Je peux vous dire que son premier entraînement, il a marqué 4 buts, mais là, il était avec moi. Il faut bien le dire. Il faut bien le souligner. Mais il était déjà très, très en forme.
Dante, c'était un plaisir de t'accueillir dans Génération Merci After. Beaucoup. On va te suivre en Merci Ligue 1, Dante. Bien sûr, la remontée folle du gym. Et également en Coupe d'Europe, hein, 8e de finale. Vous jouerez pas les barrages, vous Ligue Europa Conférence. Ce sera un objectif ambitieux parce que quand je vois le plateau, je me dis que c'est possible. Hein. Moi, je vois comme épouvantail la Lazio, West Ham, Villarreal, Istanbul Başakşehir et le GC Nice.
Il faut avoir de l'ambition.
Il faut de l'ambition là.
Bien sûr.
Vous allez la gagner,
bien sûr,
Dante.
Bien sûr. Et, malgré qu'il y a des grosses équipes, mais il faut rêver. Il faut rêver avec ça et il faut pas la jouer pour la jouer. Il faut pas se dire ouais, on a joué bon. Ah, si on perd, bah c'est pas grave. Non. Il faut vraiment mettre cet objectif avec une grosse détermination pour porter notre équipe, notre club le plus longtemps possible en Europe.
Et quand on voit les joueurs que vous avez, l'expérience, Schmeichel, toi, Todibo,
Nicolas Pepe qui va revenir aussi.
Todibo, Nicolas Pepe, Mofi, le petit Sofiane Diop, Kefren Thuram, il y a quand même une équipe qui peut tenir la route dans ce genre de compétition.
Merci encore, Dante. C'était un plaisir.
Merci beaucoup.
On te retrouve aussi régulièrement le samedi sur RMC. Tu es partie des infiltrés Ligue 1 de Benoît Boutron. On te retrouve régulièrement, au moins une fois par mois. Merci beaucoup.
Merci.
Bonne saison à toi.
Bye bye. On vient dans un instant, Génération After, la suite RMC, 20h58, la Coupe de France, Lyon face à Lille. Est-ce que la Coupe de France peut sauver la saison lyonnaise? On vous attend nombreux supporters lyonnais. On parlera du LOSC également avec un avis de Kevin Diaz qui veut voir absolument le LOSC de Fonseca gagner quelque chose cette saison. Restez avec nous, Génération After RMC.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.